Vous écoutez, on lit pour vous.
Un autre virus à craindre. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 30 août 2024 dans la presse. Les cas d'encéphalite équine de l'Est se multiplient en Nouvelle-Angleterre, où un décès a été rapporté. Faut-il craindre une éclosion au Québec? La presse fait le point avec plusieurs experts. Qu'est-ce que l'encéphalite équine de l'Est, EEE? Il s'agit d'une maladie virale qui peut se transmettre à l'humain par la piqûre d'un moustique infecté. Il n'existe aucun traitement antiviral contre cette maladie, ni aucun vaccin pour l'humain, souligne Miyariosa Rindra Rakoto Arianya, conseillère scientifique de l'Institut national de santé publique du Québec. La période d'incubation est de 4 à 10 jours. La plupart des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Parfois, il peut arriver que l'on ait des symptômes grippaux, fièvre, douleurs musculaires. Cependant, dans 5% des cas, le virus peut infecter le cerveau. Apparaît alors une forme sévère de la maladie qui peut évoluer en méningite ou en encéphalite avec des symptômes plus alarmants, vomissements, convulsions ou même coma. Lorsque le cerveau est atteint, le taux de mortalité est de 25 à 75. Le décès peut survenir de 3 à 5 jours après l'apparition des symptômes. Parmi les personnes qui survivent à ces formes graves de la maladie, environ la moitié garde des séquelles neurologiques permanentes. Pourquoi en parle-t-on en ce moment? Cette maladie est connue depuis très longtemps. Les premiers cas ont été détectés chez le cheval il y a 2 siècles aux États-Unis, explique l'infectiologue Donald Vinn, médecin au Centre universitaire de santé McGill. Et elle a été identifiée chez l'humain pour la première fois en 1938. La maladie est principalement présente chez une espèce de moustique particulière qui préfère piquer les oiseaux, mais d'autres moustiques, moins regardants sur leur proie, peuvent eux aussi s'infecter en piquant un oiseau porteur du virus avant d'infecter un autre hôte. Il peut s'agir d'un cheval, par exemple, ou d'un humain. Une dizaine de cas sont recensés chaque année chez l'humain aux États-Unis. Plusieurs l'ont été dernièrement en Nouvelle-Angleterre et un homme de 41 ans, résidant au New Hampshire, en est mort le 19 août 2024. Quelle est la situation chez nous? Au Québec et en Ontario, il n'est pas rare que des cas soient signalés chez des chevaux. Plusieurs ont été rapportés au mois d'août cette année, selon la base de données du Système canadien de surveillance de la santé animale. Seuls 4 cas ont été détectés chez l'humain en Ontario depuis 2016, le plus récent en 2022, selon les chiffres communiqués à la presse par l'Agence de la santé publique du Canada. Mais tous ont survécu, assure Mme Rakoto Arinia. Au Québec, aucun cas humain n'a été recensé jusqu'ici, mais puisque des chevaux ont été infectés, c'est assez certain que le virus circule ici aussi chez l'humain, mais qu'il est passé sous le radar, souligne la vétérinaire Antoinette Ludwig, épidémiologiste à l'Agence de la santé publique du Canada. Qui est à risque? Les enfants et les personnes âgées sont les plus à risque de présenter une forme grave de la maladie s'ils sont infectés. Les cas surviennent toujours en périphérie de zones marécageuses, note la docteure Ludwig, car c'est là que vit l'espèce de moustique qui infecte les oiseaux. Elle recommande de faire particulièrement attention lorsque l'on se déplace en forêt ou près de marécages. Les personnes travaillant dans les milieux agricoles ou avec les chevaux sont également plus susceptibles de se faire piquer par un moustique infecté. En quoi ce virus se compare-t-il à d'autres? Le virus de l'EEE n'est pas le seul transmis par les moustiques. Au Canada, les autorités sanitaires surveillent également le virus du Nil occidental, ainsi que ceux du sérogroupe Californie. Dans de rares cas, ces virus peuvent aussi causer des infections neurologiques graves. En particulier, l'espèce de moustique impliquée dans la transmission du virus du Nil occidental préfère les milieux urbains. C'est pourquoi les experts recommandent de prendre des précautions pour ne pas être piqué en tout temps, y compris en ville. Que peut-on faire pour se protéger? Il ne faut pas paniquer dès que l'on se fait piquer, souligne le docteur Donalvin. Mais il faut rester prudent lorsqu'il y a une surabondance de moustiques. Pour éviter de se faire piquer, les experts recommandent de porter des vêtements amples et couvrants, d'éviter de sortir le soir lorsque les moustiques sont particulièrement actifs ou encore d'utiliser du répulsif. Et à l'avenir? Pour la docteure Ludwig, si l'on voit plus régulièrement qu'auparavant des cas d'EEE chez les chevaux et maintenant chez l'humain, ce n'est pas un hasard. Il y a un lien avec les changements climatiques, assure-t-elle. Dans les prochaines années, avec l'augmentation des températures, les moustiques risquent de devenir plus actifs et pourront se reproduire plus facilement. Le virus va aussi pouvoir se multiplier plus vite, ce qui va accélérer sa transmission, explique-t-elle. De même, les experts s'attendent à davantage de précipitations, ce qui pourrait avantager les moustiques, puisqu'ils se développent dans des eaux stagnantes. Les populations vectrices de maladies pourraient ainsi augmenter et se déplacer. La chercheuse s'attend donc à voir les cas d'EEE se multiplier à l'avenir au Québec. C'était un autre virus à craindre, un texte de Chloé Bourquin, paru le 30 août 2024 dans la presse.
Université de Sudbury, 23 programmes et une autonomie académique. Un texte de Donald Denny, paru le 26 juin 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. Les 23 programmes que l'Université de Sudbury offrira dès septembre 2025, dans le cadre d'un partenariat avec l'Université d'Ottawa, seront assurés par des enseignants, tous recrutés par l'Université de Sudbury. Ces derniers auront l'autonomie et la liberté académique nécessaires pour dispenser les cours à leur façon. Une expérience étudiante de l'Université réinventée, avec des élèves de la 11e année, sera co-créée dès cet été. L'annonce des programmes a été faite le mardi 18 juin via un communiqué rendu public par l'Université de Sudbury qui avait déjà dévoilé son entente avec l'Université d'Ottawa le 14 mars dernier. Ainsi, les étudiants auront l'option de 3 programmes, soit ceux des sciences humaines et sciences sociales, des sciences de la santé et celui de la gestion et des sciences commerciales, soit des programmes qui ne sont pas offerts dans la région. Pour l'instant, les étudiants pourront obtenir 2 diplômes, soit celui des sciences humaines et sociales, ainsi que celui des sciences de la santé, parce que, selon M. Serge Miville, recteur et vice-chancelier de l'Université de Sudbury, le baccalauréat en sciences commerciales de l'Université d'Ottawa fait l'objet d'une triple accréditation internationale que n'a pas l'institution subburoise. Les étudiants pourront toutefois choisir la mineure et le certificat du baccalauréat en sciences commerciales et ainsi obtenir un 2e diplôme. Au total, les étudiantes et les étudiants auront le choix de 23 programmes, dont 8 en sciences humaines et sciences sociales, 4 en sciences de la santé et 7 en gestion et sciences commerciales. Il s'agit d'un programme unique en Ontario. Il relie les besoins de la communauté au pragmatisme de l'étudiant, affirme M. Miville. Ce que gagne l'étudiant. D'abord, il existe une demande très claire de la communauté franco-ontarienne de la région pour une institution d'éducation postsecondaire en langue française. Cette communauté a besoin d'administrateurs, de chefs d'entreprise et de travailleurs culturels de langue française. Pour ce qui est de l'étudiant, il exerce son pouvoir sur son devenir afin d'effectuer une analyse stratégique des risques pour se donner toutes les chances de sécuriser ou d'améliorer son statut en société, déclare le recteur de l'Université de Sudbury. Il ajoute « En gros, l'étudiant cherche un parcours qui répond à ses ambitions et qui lui permet de sécuriser un emploi gratifiant et payant pour lui offrir une sécurité matérielle. L'expérience étudiante axée sur le leadership offre une valeur ajoutée inestimable directement liée aux compétences recherchées par les employeurs du Nord et du Canada tout entier », renchérit M. Miville. Liberté académique. Pour lui, la relance des études universitaires en français, à Sudbury, offrira un choix de proximité permettant d'ancrer la jeunesse et le talent chez nous, ici dans le Nord. Si les programmes et les cours sont en quelque sorte un miroir de ceux de l'Université d'Ottawa, il s'agit bien de programmes et de cours de l'Université de Sudbury dûment approuvés par le Sénat de l'institution sudburoise. De plus, en vertu de la liberté académique garantie par la politique académique de l'institution, ainsi que par la convention collective, les professeurs jouissent d'une liberté académique, ce qui leur permet d'enseigner les cours à leur façon. Tous les enseignants qui offriront ces programmes et ces cours seront embauchés par l'Université de Sudbury. Ils enseigneront pour la plupart en présentiel, bien que certains cours puissent être offerts par distance. Un laboratoire appliqué. De plus, l'Université de Sudbury compte embaucher des élèves de 11e année au cours des trois fins de semaine de cet été afin de co-créer l'expérience étudiante de l'université réinventée. Nous cherchons d'abord et avant tout d'être à l'écoute des étudiantes et des étudiants pour connaître ce qu'ils veulent et s'attendent de leur expérience universitaire. C'est une expérience que nous comptons répéter à chaque été, déclare M. Miville. Le laboratoire appliqué de co-création, le LACC, sera l'incubateur, par et pour les étudiants, des compétences clés recherchées par les employeurs, le travail d'équipe, la résolution de problèmes, l'adaptabilité, la communication claire, la maîtrise des outils de travail numérique, la créativité et l'innovation. Les étudiantes et les étudiants qui aimeraient faire partie de ce laboratoire sont priés de soumettre leurs demandes à l'Université de Sudbury. Pour l'instant, les deux institutions n'ont pas encore fait une demande de financement au ministère des Collèges et Universités de l'Ontario. Nous voulons prendre le temps d'effectuer un calcul véritable des coûts avant de faire cette demande, affirme M. Miville. Le gouvernement fédéral, pour sa part, a promis de verser une somme de 5 millions de dollars pour ce projet d'université française à Sudbury. Le recteur et vice-chancelier n'écartent pas la possibilité de négocier des partenariats avec d'autres institutions. C'était Université de Sudbury, 23 programmes et une autonomie académique. Un texte de Donald Denny, paru le 26 juin 2024 dans Le Voyageur de Sudbury.
Ottawa, nouveau décor pour film de Noël américain. Un texte de Michel Comte et Anne-Sophie Thiel de l'agence France Presse paru le 6 juin 2024 dans Le Devoir. La neige a disparu dans les rues d'Ottawa, mais ni le gui ni les sapins n'ont disparu. Au printemps, les tournages s'invitent dans la capitale canadienne où sont réalisés un tiers des films de Noël projetés chaque année en Amérique du Nord.
incitations fiscales, décors rappelant au choix les petites villes américaines ou les grandes. Ottawa attire une douzaine de productions chaque année. Le succès de ces films de Noël a explosé ces dernières années dans un contexte marqué par la pandémie et les conflits dans le monde. Selon Sandrine Péchez de Saint-Sardos, commissaire du bureau du cinéma d'Ottawa. Les gens voulaient des choses qui leur font du bien, et les films de Noël sont là pour ça. C'est de l'évasion, un contenu réconfortant, estime cette experte, ajoutant qu'ils permettent de se réunir en famille dans des moments doux et sans violence. Dans la grande banlieue d'Ottawa, à Almonte, par une journée printanière ensoleillée, la neige est de sortie, tout comme les Pères Noël devant les cafés de la rue principale. On y tourne « Hocus Pocus Christmas ». Neige en coton. Ici, cela ressemble à une petite ville américaine comme celle où j'ai grandi en Pennsylvanie, raconte la réalisatrice américaine Marita Grabiak. L'histoire principale est toujours celle d'un homme et d'une femme qui tombent amoureux ou qui deviennent de grands amis, ajoute cette professionnelle qui tourne dans la région depuis 6 ans. L'intrigue se passe dans de petites villes pour les valeurs qu'elles véhiculent. Simplicité, dur labeur et entraide. Filmer en hiver pendant un blizzard peut donner lieu à des scènes absolument magnifiques, s'enthousiasme-t-elle, derrière ses lunettes de soleil. Mais le froid extrême abîme l'équipement cinématographique, donc il faut s'adapter. Chargé de créer l'illusion, Mathieu Bissonnette-Bigra, superviseur des effets spéciaux, a pour mission de « tromper l'œil du téléspectateur ». C'est souvent les petits endroits qui vont rendre l'effet plus réaliste, estime-t-il, en appliquant de la mousse, du papier et du coton pour créer de la neige sur le pas de la porte d'une boutique. Sur le plateau, rien n'est facile. S'il fait trop chaud, la mousse fond. S'il y a trop de vent, tout s'envole, explique la productrice Josie Fitzgerald. Les scènes seront ensuite retouchées en post-production. Des parkas par 30 degrés. C'est marrant et cool. Les gens du film mettent toute cette fausse neige et des tas de décorations de Noël, explique Anna, 9 ans, qui se promène avec sa mère. Établie à Almonte depuis 2016, Kim Nixon estime avoir vu entre 15 et 20 tournages de films de Noël et même l'acteur américain Justin Hartley. This is Us. Pour l'un d'eux, en juillet 2023, grâce aux décorations, on se serait cru en plein mois de janvier, raconte-t-il. C'était vraiment quelque chose à voir, souligne-t-il. Mais j'avais de la peine pour les acteurs qui portaient des parkas par 30 degrés, sourit M. Nixon. Ces dernières années, les chaînes Hallmark, Lifetime, Oprah Winfrey Network, entre autres, ont dépensé plus de 50 millions de dollars canadiens, 33,7 millions d'euros par an pour tourner des films à Ottawa. Les diffuseurs sont appâtés par un généreux crédit d'impôt qui couvre 45 % des coûts de main-d'œuvre, soit 10 % de plus que dans les grands centres de production cinématographique que sont Toronto et Vancouver. Et puis ici, il y a un effet « waouh » ici, affirme Sandrine Péchez de Saint-Sardos, mentionnant l'architecture du Château Laurier, le canal Rideau, les allées pavées, les parcs naturels et les villages pittoresques qui remplacent les petites villes américaines. C'était Ottawa, nouveau décor pour film de Noël américain, un texte de Michel Comte et Anne-Sophie Till de l'agence France Presse paru le 6 juin 2024 dans Le Devoir.
Comment l'ONF s'est assuré de la pérennité de ses œuvres, un texte d'André Duchesne paru le 2 août 2024 dans la presse. Lorsque les tournages en format numérique ont commencé à s'imposer, l'Office national du film, ONF, a pris les moyens pour assurer la plus complète pérennité de ses œuvres faites maison, une décision qui a permis d'éviter de se retrouver en mode rattrapage. C'est ce que soutient Jimmy Fournier, ingénieur de formation et directeur général de la section Technologie, du producteur et distributeur public fondé en 1939. Monsieur Fournier explique que peu après son arrivée à l'ONF en 2004, il a fait le constat que les mutations nombreuses et rapides des formats d'enregistrement, de diffusion et de conservation numérique allaient constituer un enjeu. Je me suis dit que si on ne gérait pas les choses dès le départ, il deviendrait insoutenable d'assurer une préservation à long terme, dit-il. La solution qu'il a mise de l'avant, calquer dans le mode numérique toutes les étapes connues depuis longtemps dans l'archivage de films analogiques en pellicule. Ce processus comprend la préservation du matériel de tournage, l'original négatif, l'interpositif, l'internégatif et les copies. On a regardé notre passé pour voir comment naviguer dans le présent, illustre M. Fournier, ajoutant qu'il y a un très gros risque d'altération ou de perte de données si on ne suit pas attentivement l'évolution des technologies numériques. M. Fournier n'a pas œuvré seul dans son coin pour créer ce nouveau modus operandi. Plusieurs collègues de forums internationaux et ceux de la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis ont travaillé ensemble. Ils ont établi un processus qui assure la vérification continue de l'intégrité des données stockées, nous explique M. Fournier. Pour éviter de se retrouver devant un problème d'obsolescence, des vérifications aléatoires sont constamment faites. On s'assure d'être toujours capable de lire les cartouches ou le médium sur lesquels on écrit quand une nouvelle technologie se met en place, dit M. Fournier. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque migration des médiums de préservation, on gagne de l'espace. Enfin, l'ONF et ses partenaires privilégient la création de fichiers dits « ouverts » qui ne sont pas contrôlés par un fabricant indépendant et qui font l'objet d'une norme internationale. L'ONF estime qu'avec les processus mis en place, il n'est pas nécessaire de créer et de conserver une copie sur pellicule des films tournés en numérique. Le risque de perte est faible, assure Jimmy Fournier. C'était comment l'ONF s'est assuré de la pérennité de ses œuvres, un texte d'André Duchesne paru le 2 août 2024 dans la presse.
Le gros bon sens. Un éditorial de Régent Grenier paru le 12 juin 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. Le gros bon sens, Common Sense, c'est le nouveau slogan utilisé par Pierre Poilievre et ses conservateurs pour décrire leurs idées pour le Canada. Remarquez que, jusqu'à présent, ce ne sont que des idées. Le chef conservateur n'a pas encore présenté les politiques qu'il promulguerait s'il est élu au poste de premier ministre. Le gros bon sens a même fini par remplacer « axe de taxe », qui avait pourtant le chic de rimer en anglais. Il est évident que le Parti conservateur espère agrandir sa base électorale avec un slogan qui vise plus qu'une taxe. Après tout, le gros bon sens est une terminologie que tout le monde connaît et qui englobe tout. Il y a pourtant un gros pari lié à ce slogan. Les conservateurs doivent absolument gagner une part importante de l'électorat de l'Ontario s'ils veulent former un gouvernement. Leur pari? C'est que l'électorat ontarien a oublié les effets dévastateurs de la révolution du bon sens du premier ministre ontarien Mike Harris. Avant l'élection de 1995, le chef conservateur ontarien Mike Harris publiait un document de campagne intitulé « La révolution du bon sens, Common Sense Revolution ». Les conservateurs y promettaient de réduire la taxe provinciale et d'assainir les finances publiques en réduisant la taille et le rôle des gouvernements. Ça ressemble d'ailleurs au prononcement actuel des conservateurs fédéraux. Le problème avec ce pari, c'est que la révolution du bon sens de Harris a effectivement réussi à équilibrer le budget de l'Ontario en 1999, mais au prix de coupures drastiques dans les services gouvernementaux qui ont affecté des millions d'Ontariens. Sous les deux mandats du gouvernement Harris, l'Ontario a subi d'importantes réductions. Coupures importantes des prestations de bien-être social qui ont poussé certains citoyens défavorisés au désespoir. Des coupes massives en éducation qui ont causé les plus longues grèves d'enseignants, de mémoire d'éditorialistes. La privatisation d'une partie d'Hydro-Ontario. La déréglementation et la privatisation du système de résidence pour aînés, privatisation qui enrichit maintenant Mike Harris en tant que président de la chaîne Chartwell. Transfert de responsabilité aux municipalités sans augmentation de budget. Certains affirment même que c'est ce qui a causé en l'an 2000 la contamination de l'eau potable à Walkerton, où 7 personnes sont décédées et 2300 autres ont été gravement malades. On pourrait continuer à décrire les problèmes causés par la révolution du bon sens, qu'il nous suffise de dire qu'elle n'a pas été tranquille. Et qu'en 2002, les Ontariens ont défait le gouvernement Harris en élisant pour la première fois un gouvernement néo-démocrate. Ce revirement de 180 degrés démontre bien le ras-le-bol de l'électorat. Tout ceci ne veut cependant pas dire que Poilievre et les conservateurs ne gagneront pas leur pari du gros bon sens. La plupart des électeurs fédéraux vivent dans d'autres provinces et territoires, et même en Ontario, la plupart des moins de 40 ans ne se souviennent probablement pas du chambardement des années 90. Et les sondages semblent indiquer que ce sont ces électeurs qui penchent vers le Parti conservateur. C'était « Le gros bon sens », un éditorial de Régent Grenier, paru le 12 juin 2024 dans « Le Voyageur » de Sudbury.